ministre François Legault était au micro de notre collègue de Montréal, Paul Arcand, cette semaine. Il sera d'ailleurs dans l'émission du midi avec Myriam Segal et Luc Lavoie mardi pour la traditionnelle tournée de fin d'année des médias du premier ministre du Québec. J'ai retenu quelques passages de cette entrevue avec Paul Arcand parce que évidemment il a traité des grandes lignes, mais j'avais envie de discuter avec Alain Madjin, vice-président principal chez Citoyens Optimum, de certaines techniques de communication puis de l'impact que ça peut avoir sur la façon dont il propage son message. Monsieur Madjin, bonjour.
Bon matin, monsieur.
C'est un plaisir de vous retrouver, comme on le fait une fois de temps en temps. Ou tu vas vous voyer, monsieur Madjin, toi, comme
oui, si... Oui, vous voyez.
Comme si tu ne donnais pas
vous,
un petit surnom d'école...
D'université
pendant les pauses.
Oui, vous.
Alors, on va jouer, monsieur Madjin, à... C'est-tu payant ou c'est pas payant dans l'opinion publique? Tel sujet puis la façon de l'apporter. On a quelques extraits sonores. Notamment, une chose qui a beaucoup retenu l'attention, on va écouter l'extrait là cette semaine, c'est la fameuse ligne que je pense dévastatrice sur le pétrole sale de l'Alberta.
Pétrole sale, l'Alberta, pour vous?
Oui. Le mot était un peu fort, mais en même temps, il était juste. La question qui était posée par un journaliste était de dire comment vous pouvez d'un côté dire que vous voulez exporter l'hydroélectricité dans le reste du Canada, mais vous voulez pas importer du reste du Canada du pétrole. Ben, j'ai dit la différence, c'est que l'hydroélectricité, c'est de l'énergie propre, tandis que le pétrole, c'est de l'énergie sale. Je voulais pas faire la leçon. Là.
Si je résume la réaction, là, c'est Québec met la main sur le deux tiers de la péréquation en gros, puis vous voulez même pas laisser passer notre pipeline pour aller vendre notre pétrole pour nous enrichir.
Bon, on s'arrête là. Un peu fort, mais juste, le pétrole sale de l'Alberta.
Oui, assurément, ça fait la manchette. C'est intéressant pour nos amis journalistes. Il a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent. On dit toujours à nos gens de rester sincères à eux-mêmes, puis pas d'essayer de jouer la game.
Ouais.
Mais quand tes premiers ministres essaient de pas rajouter une couche sur... des sujets qui sont déjà tendancieux dans les négociations entre les différentes provinces. Mais en même temps, il arrive, il doit faire sa marque. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ait pris le temps et que l'animateur lui ait laissé le temps aussi d'expliquer le contexte.
Ouais,
parce que là, on est dans la clip. Elle a 7 secondes maintenant. Elle avait 30 secondes dans les années 60. Ouais. Elle est passée à 15. Il faut
faut mettre les choses en contexte.
Faut les mettre les choses en contexte. Mais quand voulant dire que notre énergie à nous est propre, c'est d'avoir donné son contraire à l'autre type.
Le contraire de propre, c'est sale.
Mais ben oui, bref,
on a stické sur le mot sale, mais cette ligne-là, finalement, pour François Legault, sur le plan politique, c'est-tu payant ou c'est nuisible?
Moi, je pense que c'est payant.
OK.
Parce que on l'a talonné et on l'a marqué au fer rouge depuis son élection sur le fait qu'il ait des enjeux en termes d'environnement, qu'il ait nommé quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, mais il en a nommé 24 qui n'avaient pas d'expérience.
Alors, mais il s'est fait élire par la droite, des gens qui sont en faveur de mesures qui sont censées aider l'économie. Là, on dit, OK, péréquation, on en reçoit beaucoup de l'Alberta à cause du pétrole. D'autres personnes disent aussi, le pipeline, c'est la manière... la plus sécuritaire avec le train puis le bateau de transporter le pétrole. Est-ce qu'il n'est pas en train de prendre une mesure un peu à l'inverse des gens qui l'ont élu?
On est à 4 ans de la prochaine élection.
C'est vrai.
Il y a encore beaucoup de temps devant lui. Mais il s'est fait élire, lui, par des gens qui doivent prendre leur voiture tous les matins.
Oui.
Ce que j'appelle, moi, la CAC-Land, la rive nord et la rive sud de Montréal.
Oui.
Et
les environs de Québec.
Les environs de Québec également.
Il y a trois circonscriptions qui ne sont pas de la CAC dans la grande région.
Exactement. Puis qui doivent prendre leur voiture, mettre du pétrole dedans, qu'il soit sale ou non, et se rendre au travail tous les matins, comme c'est le plein emploi. Alors, je pense qu'il s'est tout simplement fourvoyé en voulant... Puis là, les gens, là, je sais pas le niveau des prochaines élections en Alberta et en Saskatchewan, mais il y a peut-être aussi un peu une game là-dedans, en même temps.
Le cannabis à 21 ans au lieu de 18.
Mon objectif premier, c'est pas de faire la lutte aux Hells Angels. C'est qu'il y ait le moins de jeunes possible qui consomment du cannabis.
Vous pensez qu'ils vont consommer moins parce que c'est...
Oui, oui. Il y a certains jeunes, pas tous, certains jeunes quand ils vont entendre le message doit être clair, là, il y a un risque de créer des problèmes aussi graves que la schizophrénie. Moi, j'en connais des jeunes qui ont eu ces conséquences-là. Donc, faut expliquer aux jeunes là que c'est très dangereux. Puis, en disant que c'est illégal jusqu'à 21 ans, ben on est cohérent à notre message.
OK, on arrête ici. Le message est clair.
Oui.
Le but, c'est de protéger les jeunes, c'est pas la lutte aux Hells.
Et il l'a dit très, très, très clairement pendant la campagne.
Oui, absolument.
Il l'a dit, il l'a répété à 3 reprises officiellement depuis son élection qu'il allait remplir ses promesses. Il le fait.
Alors ça, c'est plus payant que nuisible?
Ça, c'est plus payant. Puis ouais. Je pense qu'il s'adresse à la communauté des gens de son âge et de mon âge, qui sont parents, et qui n'ont jamais et qui ont à vivre ce changement fondamental. Où nous, moi, à 50 quelques années, je me suis fait dire toute ma vie que la drogue, c'était dangereux.
Ouais.
Et là, on passe à une acceptation sociale.
Pouvoir l'acheter dans ces étalages de magasins publics.
Public.
Ah oui.
Gouvernementaux. Et là, je pense qu'il s'adresse vraiment à cette communauté-là de ses voteurs aussi, qui sont propriétaires en banlieue, qui ont des enfants dans la vingtaine ou qui sont adolescents. On est dans cette voie-là.
OK. L'interdiction des signes religieux dans la fonction publique?
D'abord, on a promis pendant la campagne électorale de façon très claire là, d'interdire les signes religieux pour les personnes en autorité, incluant les enseignants. Donc, je comprends qu'il y en a qui sont en désaccord, mais je me sens légitime. J'ai eu un mandat fort de faire ça. Maintenant, les personnes qui sont déjà en poste, ben d'abord, il faudrait voir combien il y en a. Combien il y en a qui sont prêts à accepter des postes administratifs ou ne se retrouvent pas en autorité? Quelle sera la période de transition? C'est sûr que ça me tente pas là, de mettre des gens dehors.
Êtes-vous prêt à invoquer la clause dérogatoire, la clause non-obstant, pour maintenir votre mesure?
Absolument. Puis j'examine la possibilité de le faire dès le dépôt de la loi. Donc, que ça soit réglé. Moi, mon objectif...
OK. On arrête ça là. Il y a plusieurs affaires là-dedans. L'interdiction d'abord des signes religieux dans la fonction publique, de voir combien de personnes sont prêtes à accepter des postes administratifs, la clause grand-père, qu'est-ce qu'on fait avec ça finalement? Il va tout de suite dans certains secteurs avoir une clause grand-père qui va permettre aux gens qui ont déjà des signes religieux de les conserver, mais pas aux nouveaux. Puis la clause dérogatoire pour éviter que le fédéral s'en mêle.
Alors, là, il est empêtré.
Là, il est dans le trouble.
Oui, moi, je...
C'est plus nuisible que payant.
Oui, puis il sait... complètement isolé quand la chance est venue de retirer le crucifix à l'Assemblée nationale. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'en termes de communication, la constance est très importante.
Ouais, c'est ça.
On va toujours pouvoir lui reprocher de ne pas avoir posé... Si l'État est neutre, il est neutre.
Oui, là-dessus, on se rejoint.
Complètement.
C'est ça.
Alors, comment va-t-il faire pour dire aux dames qui gèrent des classes ou des
hôpitaux peut-être
ou des des garderies, ces choses-là,
des CPE.
Dans l'ouest de l'île,
oui.
Où il y a une certaine communauté de l'île de Montréal, leur dire qu'ils vont perdre leur job alors que quand l'occasion est venue de poser un geste très sensible, de rendre l'État complètement neutre.
Absolument.
Et là, moi, je pense qu'il va... Et par contre, c'est très intelligent de leur part de faire ça tout de suite.
En début de mandat.
Oui.
Pour que ça soit réglé.
Oui. Par contre, ça va être contesté juridiquement. La décision de la Cour supérieure devrait venir après 2 ans. La Cour d'appel peut-être 1 an plus tard. Et là, on va être en... proche de la prochaine élection. Ouais, là, oui, mais ils l'ont promis.
Ça peut être un caillou dans le soulier.
Oui, puis c'est la base. Ça, c'est la base de l'ADQ qui est passée à la CAQ. Et là, il y a tout un mouvement là, de gens qui veulent que cette question-là, qui est peut-être pas prioritaire dans l'esprit de bien des gens, mais qui touche surtout l'île de Montréal, soit réglée.
Non, mais c'est drôle, c'est intéressant, Alain, ce que tu dis, parce que moi, je prends l'exemple du Kirpan, OK, qui s'était rendu jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême a décidé qu'effectivement, un jeune, je sais pas si c'est hindou précisément ou autre, qui doit porter son petit couteau, etc., a le droit de le faire à l'école. Il faut qu'il soit dans une boîte, blablabla. Là. Ça, là, jusqu'à temps que la Cour se prononce, ça a été comme actuellement. Les gens, ça fait partie, les éditoriaux, rarara. Trois jours après le jugement, ça crie encore, puis après ça, c'est terminé. Cette question-là, là, je suis désolé, c'est là que c'est d'actualité. Le jour où c'est tranché d'un côté ou de l'autre, c'est terminé, ce n'est plus d'actualité.
Bon, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'on vit vraiment dans un état de droit. Et c'est tant mieux.
Non, mais c'est parce que ça traîne. Tout ce qui traîne, ça salit. Oui. Ces questions religieuses-là sont extrêmement polémiques tant qu'ils ne sont pas réglés. À partir du moment où ils sont réglés, ce n'est plus dans l'actualité. Parce que c'est pas vrai que ça habite les gens à journée longue.
Mais encore faut-il que ça soit réglé de manière cohérente. Là où on se rejoint, M. Magin, c'est que François Legault avait une belle opportunité de vraiment prôner la laïcité en enlevant les signes religieux de toutes les sortes, alors qu'en laissant... Le meilleur exemple, c'est le crucifix de l'Assemblée nationale. Là, puis je veux pas rouvrir tout ce débat-là parce que
Oui, il est historique, c'est un signe religieux.
Ouais, mais pourquoi pas le mettre dans un musée?
Ouais, mais
pourquoi
ça, c'est ton avis.
Oui, c'est mon avis, mais il reste que sur le plan très objectif, Marc, là, la laïcité, ça veut dire pas de signe religieux dans la fonction publique, puis dans l'appareil étatique, il peut pas y avoir un crucifix au-dessus de la tête des députés.
Écoute, je fais juste te dire que...
Désolé, mais... je dis pas brûler le crucifix, je dis... Mettez-le en valeur, mettez-le, faites une salle ou dans le hall.
Il y a des vitrines à l'entrée de l'Assemblée nationale.
Dans le hall de l'Assemblée nationale, avec un petit écriteau qui explique quand est-ce qu'il était posé, par quelle communauté. On va apprendre des affaires là-dessus.
Je suis pas contre.
On va s'instruire comme citoyen beaucoup plus que si on le laisse en haut. Mais si on le laisse en haut, le symbole, c'est pas de la laïcité, malheureusement.
Non.
C'est pas
ça de la laïcité. Mais mon point, c'est que peu importe la subtilité qui sera la décision finale, ça sera plus d'actualité quatre jours plus tard.
C'est là-dessus, t'as raison. Là, l'autre enjeu de communication, c'est de ne pas avoir de réponse. Si c'est leur priorité de début de mandat, il devrait y avoir déjà quelqu'un qui travaille sur le nombre d'employés qui ont ou qui portent actuellement un signe religieux clairement. Mm-hmm. Puis.
Mais la réponse, c'est toujours très peu. Anyway.
Oui, oui, mais si c'est 12, il pourrait le dire.
Ouais, c'est ça, faut qu'il le sache.
À mon avis, on essaie d'avoir le plus de données possible parce que on veut pas embarquer dans le on verra de l'ancienne campagne électorale.
Puis là, c'est un peu ça là, dans le clip qu'on vient d'écouter. Là, on va voir il y en a combien. On verra il y en a combien qui sont prêts à accepter des postes administratifs. Ça, c'est vaseux. J'en ai un autre pour vous sur le plan de l'opinion publique qui est bien intéressante. C'est plus récent. C'est le fait que François Legault veuille soutenir la compagnie SNC-Lavalin. La Caisse de dépôt et placement qui a acheté 4 millions d'actions, c'est 20% de l'entreprise SNC-Lavalin, dont l'action avait perdu 20% de sa valeur depuis le début de l'année. Il y avait des possibilités là ou des intérêts étrangers qui auraient pu vouloir racheter la compagnie SNC-Lavalin, qui est un, et j'ouvre de gros guillemets, fleuron québécois. T'es un peu tanné de l'entendre, celle-là, mais bon, mais c'est ça quand même.
On a le fleuron facile.
Mais cette compagnie... Oui, c'est vrai. Cette compagnie-là vient avec une espèce d'aura, avec une image très négative d'histoire de corruption, puis de collusion, puis de pot de vin. Est-ce que c'est payant sur le plan politique de soutenir SNC-Lavalin ou c'est nuisible?
Moi, je pense que dans ce cas-ci, c'est pas SNC-Lavalin. C'est le fait d'avoir, pendant 20 ans, François Legault dit il faut garder nos sièges sociaux.
Ouais.
Et là, il met en application, il a le pouvoir, il met en application ce qu'il a dit, ce qu'il a répété en campagne électorale, ce qu'il a dit quand il était à la deuxième opposition, quand il était même ministre du temps du Parti québécois. Utiliser les outils que l'État possède pour intervenir et conserver. Là, SNC-Lavalin est dans le trouble.
Ouais, c'est ça. Mais tant qu'il aurait préféré que ce soit une autre compagnie qui ait besoin d'aide que SNC-Lavalin.
Oui, mais il venait de commencer, là. Rappelez-vous, SICO, là. Il venait de prendre le pouvoir, puis l'entreprise a annoncé trois jours plus tard qu'elle quittait le Québec, puis tout ça. C'est des choses qui, pour lui, l'ont marqué. Je pense qu'il y a cette fibre d'entrepreneur-là. Mais le choix de maintenir ici des opérations au Canada. SNC-Lavalin, c'est une immense entreprise. Ouais, ouais. Là, faut que je peux pas commenter plus que ça parce que j'ai des enjeux de professionnels. Mais en même temps, c'est une belle entreprise.
Ouais, ouais.
Elle a eu des dirigeants à sa tête qui ont fait peut-être des choses incorrectes.
Ouais, c'est ça.
Mais ça, c'est les dirigeants. Bon, il faut placer ça dans le contexte.
En terminant, François Legault est dans nos studios mardi.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut améliorer par rapport aux différentes entrevues qu'il a données à date en fin de tournée? Dans sa tournée de fin d'année, je veux dire.
Moi, je répète depuis son élection là, à ceux à qui je présente sur le nouveau gouvernement, c'est un comptable.
Ouais.
Il a choisi de faire le métier de la formation de comptable agréé. On ne pouvait pas lui demander de venir plaider en Cour suprême. C'est pas quelqu'un qui a fait un bac en communication ou en droit ou dans une autre science humaine. Il a une bonne façon de présenter les choses. Je pense qu'il est authentique. Il faut qu'il ait des réponses plus précises à certaines questions, s'il est capable de les avoir. Mais en même temps, nous autres, on conseille toujours à nos gens de rester authentiques et de répondre de la façon dont eux voudraient bien pouvoir passer le message.
Même un peu de pep, ça nuirait pas.
Oui, non, mais en même temps, il est un homme totalement comblé. J'ai eu la chance cette semaine de l'entendre encore une fois dans un événement semi-privé là, dans le cadre du parti. C'était la célébration du bal de la victoire jeudi soir dernier. J'ai eu la chance d'y participer. Il a donné un discours très simple à ses militants, mais il leur a dit d'être sur le terrain, qu'il allait faire les choses pour le mieux dans ses capacités. Puis ça, je pense que ça se traduit actuellement dans la façon dont il présente les choses.
OK.
Au moins, il se cache pas.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il se cache pas. Il y a quelques ministres qu'on aimerait avoir, par exemple, au micro, qu'eux autres se cachent un petit peu plus, mais ça, c'est une autre affaire.
Et ça, il va falloir qu'il les fasse sortir, parce que là,
si... Ça va commencer à être nuisible.
Si l'animateur du dimanche matin d'une des principales radios de la région de Québec fait des blagues avec ça, c'est le début de la fin. Il va falloir que bientôt... Je pense qu'il leur donne
Le début de mandat, le dos large, mais effectivement...
Oui, après 100 jours, il n'y aura plus de raison de laisser
À un moment donné, il va falloir qu'il... Oui. Puis c'est une affaire, d'ailleurs, que les intervieweurs, là, on est capable de reconnaître. Là. C'est une chose, je l'ai dit souvent, mais c'est une chose que j'ai toujours reconnue à Gaétan Barrette. Aussi raide pouvait-il être par moment, puis des fois, c'était des déclarations au choc, mais il allait tout le temps au bat pour se défendre, tout le temps. Même s'il avait dit quelque chose de bien controversé, il était allé un peu à l'encontre du parti, puis au Parti libéral, c'est quelque chose qui se fait pas, il allait se justifier en entrevue après, puis ça, c'est franchement quelque chose qu'on doit lui reconnaître.
Oui, puis l'inverse est difficile. Alors, il va falloir que les ministres qui sont pas encore sortis... viennent à vos micros.
Alain Madjin, vice-président principal chez Citoyens Optimum. Toujours un plaisir.
Merci beaucoup.
OK, à la prochaine. Bye-bye.
Merci.